Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Aussi longtemps que ces individus séviront ici, la loi ne sera qu'un mot inutile.
Et l'ennui, c'est que personne n'ose parler.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale polar avec l'ouvrage Milano Sanguina de Julien Caldironi qui est paru dans la collection Carnage chez Zone 52 Éditions. Plus qu'un polar classique, cet ouvrage est une véritable déclaration d'amour au Poliziesco. Et donc on a été à la rencontre de Julien Caldironi qui va nous en dire plus sur cet ouvrage, mais aussi sur sa grande cinéphilie à l'italienne. Et on va rester dans le domaine du polar italien, d'ailleurs, hein, avec trois titres parus chez Artus Film, à savoir le classique du Poliziesco, Un citoyen se rebelle, d'Enzo Castellari. On va parler aussi du giallo La mort marche en talons hauts, un giallo de 1971, et de l'inclassable La possédée du lac de Luigi Bazzoni. Cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut. L'équipe de Culture Prohibée remercie Jérémy Grima, Kevin Boissezon et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission. À mes côtés aujourd'hui pour causer polar, eh bien, il y a Damien Demey. Damien Demey dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Cette émission, placée sous le signe du polar et plus particulièrement du polar italien, débute eh bien, évidemment avec un polar italien, mais non pas un polar italien cinématographique, mais plutôt un bel hommage au polar italien, écrit d'ailleurs par un auteur bien de chez nous, Julien Caldironi, publié dans une collection bien de chez nous, la collection Carnage, chez Zone 52 Éditions. Julien Caldironi, décidé de rendre hommage au Poliziesco, donc au polar italien des années 70, un peu des années 80, mais surtout des années 70, teinté d'une ambiance paranoïaque avec une criminalité échevelée, le fantôme des Brigades Rouges, voilà. Donc il s'est inscrit complètement dans cet univers pour signer Milano Sanguina, où l'enquête d'un flic qui s'appelle Morbidelli, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Fabio Testi, et qui va se retrouver confronté à une société secrète. Mais plutôt que d'essayer de vous expliquer en long, en large, tout ce qu'il y a dans ce livre, nous avons décidé de joindre l'auteur de cet ouvrage pour lui poser quelques questions. Donc tout de suite, Julien Caldironi, l'auteur de Milano Sanguina, paru dans la collection Carnage chez Jaune 52 Éditions. Julien Caldironi au micro de Culture Prohibée. Julien Caldironi est aujourd'hui donc avec nous pour causer de son ouvrage et puis un peu aussi de l'univers qui l'y développe. Mais si Julien Caldironi, c'est un nom qui est méconnu, en réalité sous une autre identité, il est déjà venu dans cette émission pour nous présenter les éditions Trash. Passer de Trash à la collection Carnage, quelque part, c'était presque inévitable.
Oui, effectivement, c'est une belle opportunité, moi, qui m'a été proposée par Jérémy, le maître d'œuvre de la collection Carnage. Et il a été en contact assez rapidement avec moi. Moi, j'étais bien sûr honoré et intéressé par le projet. Je ne savais pas encore sous quel angle j'allais aborder ça. Et puis, petit à petit, l'idée de proposer un polar comme les polars à l'italienne que j'apprécie beaucoup s'est frayé un chemin. Et puis, il a été emballé par le pitch que j'ai pu faire. Et au final, je suis très content et du roman et de participer à la collection, quoi.
Et justement, parce que tu as écrit dans divers styles, divers types de récits, parce que tu as vraiment fait beaucoup de choses auparavant, hein, voilà. Et pourquoi, alors sous un autre nom, alors, je ne sais pas si on peut le dire ou pas, mais sous le nom de Julien Elbrook, voilà.
Oui, tout à fait.
Et pourquoi tu as choisi avec Milano Sanguina justement de te tourner vers la transposition littéraire d'un genre cinématographique très typé, hein, le poliziesco? Pourquoi? Ça aurait pu être autre chose, tu aurais pu te diriger vers autre chose dans cette collection Carnage.
Ah oui, oui, tout à fait. Alors, c'est tout un faisceau de choses, en fait. Il y a d'une part, effectivement, ce genre policier auquel j'avais envie de rendre hommage, parce qu'en fait, moi, depuis, on va dire, la vision de Big Racket, qui était sortie chez Artus Film, je suis tombé un petit peu amoureux de ces polars-là. J'ai essayé d'en voir un maximum. Alors, au début, j'étais un peu malheureux parce qu'en termes de DVD, finalement, à part chez Artus, il n'y avait pas grand-chose. J'allais taper du côté des éditions anglaises et tout. Puis là, petit à petit, quand même, ça commence un peu à s'inviter par chez nous. Et puis, effectivement, le changement de nom, alors c'est pas du tout un mystère, en fait. C'est que depuis la loi de juillet dernier, il est possible à chaque personne de changer une fois dans sa vie de nom de famille et d'accoler le nom de l'autre parent ou de remplacer son nom de famille par celui de l'autre parent. Et donc, moi, c'est une opportunité à laquelle j'ai profité pour prendre le nom de ma mère, qui est Calderoni, et pour le coup, ça tombait très bien, puisque ça allait avec ce projet-là, de faire un polar à l'italienne. Alors, ce projet-là, je l'avais avant, hein, cette loi du mois de juillet. J'avais l'intention, à ce moment-là, de le signer, on va dire, sous pseudo, en prenant ce nom de ma mère, comme un pseudonyme, et puis finalement, j'en aurais pas eu besoin, puisque j'ai fait les démarches à l'état civil. Et voilà, pourquoi ce genre? Pour revenir vraiment au genre, c'est un genre que j'aime parce que c'est un polar, on va dire, très sec, avec une violence marquée. Après, politiquement, il y a un petit côté réac et provocateur qui n'est pas forcément ma tasse de thé, on va dire, politiquement parlant, mais que j'apprécie parce que c'était autant de provocation aussi à l'époque. Et j'avais déjà abordé sous l'angle du gore chez Trash Edition, j'avais abordé déjà un peu le polar médiéval, j'avais abordé le film un peu de science-fiction, on va dire, américain, new-yorkais des années 80. Donc je me disais, c'est une nouvelle manière de rendre hommage à un autre courant de cinéma que j'aime, parce qu'en fait, j'écris beaucoup dans la littérature de genre, mais en fait, plus que des bouquins, même si je suis quand même un bon lecteur, je suis surtout un cinéphile.
Tu dis que tu es cinéphile, justement, et quel film, toi, en termes de poliziesco, alors tu as parlé de Big Racket à l'instant, mais quels films t'ont particulièrement marqué, sachant que maintenant, effectivement, il y en a eu chez Ecstasy of Film, il y en a eu dans la collection Make My Day,
oui,
voilà, et puis Artus Film continue d'en sortir, le Chat qui fume, on a sorti des plus mineurs, mais on a sorti aussi un peu, même s'ils ont sorti le très très bon...
Un meurtre inutile à Sambabilé.
Voilà, merci ouais. Beaucoup, c'est un excellent film. qui est une des pierres fondatrices, en plus du poliziesco.
Oui, tout à fait.
Et toi, quels sont un peu tes films de chevet dans ce genre? Parce qu'il y en a de droite, mais il y en a de gauche aussi. Il y a aussi Solima, et voilà.
Oui, exactement. Ouais. Alors effectivement, j'ai parlé de Big Racket, de Castellari. Alors évidemment, voilà, moi c'est ma pierre angulaire parce que c'est un peu mon premier. Et puis, je vais pas commencer par le plus mauvais parce que je suis un gros fan de Fabio Testi. J'aime beaucoup cet acteur. Je trouve qu'il a une classe folle. Et puis, il y en a un que j'avais beaucoup aimé aussi, c'est Société Anonyme Anticrime de Stefano Vanzina. Qui lui, pour le coup, est un peu à l'opposé du spectre politique, j'ai envie de dire. Et puis, oui, effectivement, Un citoyen se rebelle, hein, on retrouve Castellari, que j'aime bien, il y a Exécution de Guerrieri, et puis, alors là, de tête, hein, comme ça, c'est pas évident. Évidemment, j'apprécie les films dans lesquels il y a Thomas Milian, alors quand c'est pas encore tombé complètement dans la comédie, il y en a aussi des très très bons. Globalement, je dirais que moi, je les regarde tous. Il y en a des plus mineurs, mais même dans les plus mineurs, Il y a toujours quelques petits trucs à sauver. Je sais pas, c'est une question d'ambiance. Les scènes en extérieur, là où on voit tous les habitants, les pubs, les verres de GNB qui dégustent à chaque scène, et puis les petites poursuites dans la ville, etc. Enfin voilà, c'est vraiment un cinéma que j'aime bien, et c'est un peu. Je sais même pas trop pourquoi j'aime bien, en fait, parce que j'aime bien les polars, j'aime bien le cinéma de genre en général, mais alors là je suis vraiment tombé dans ces trucs là si, il y a quelque chose que j'aime beaucoup quand même dans ces films et qui joue pour beaucoup, je trouve, c'est la musique, et qui est quand même souvent somptueuse. Donc je pense à Cipriani, si je dis pas de bêtises, les frères De Angelis, etc. Il y a des musiques de Polito Teschi et de polar à l'italienne qui sont vraiment somptueuses et qui rendent le truc magistral, en fait, quoi.
Ouais, Louis Bacalov, tout ça, c'est vrai, que de bons moments. Et puis, et comme tu le dis, effectivement, il y a toujours, c'est comme dans le giallo, c'est comme dans le western italien, c'est très rare qu'il y ait un film où il y ait pas un grand moment de mise en scène, ou alors de folie ou de dinguerie, quoi. Voilà,
dinguerie. Effectivement, c'est quelque chose que tu fais très bien de souligner, parce que c'est un cinéma qui est d'une vivacité incroyable, dans lequel il y a quasiment aucun tabou. Enfin, dans les films policiers italiens, il y a des enfants qui explosent, il y a des jeunes femmes défigurées en full frontale. Hein, je pense à la guerre des contrebandiers de Fulci. Voilà, c'est des films dans lesquels on s'interdit rien, et au contraire, on va même chercher à choquer. Alors bon, des fois, voilà, ça tombe un peu dans l'eau, des fois ça a un petit peu vieilli aussi, mais dans l'ensemble, il y a des dingueries qu'on retrouve dans aucun autre cinéma. Pas forcément dans l'action, mais dans ce que ça raconte, quoi. Hein, pour le coup, c'est vrai qu'il y a des fois, on se dit, mais non, ils vont pas oser quand même. Ils vont... Ah bah si, carrément.
C'est pour ça qu'on les aime.
Exactement.
Écoutez Culture Prouille. Le bouquin, d'ailleurs, effectivement, c'est un pur Poliziesco, tu viens de le dire. Pourtant, le prologue, moi, ouais, vraiment, on est dedans. Hein, voilà. Puis alors, la couve avec Testi, en plus, là, voilà, j'étais dans l'univers. J'ai pris mon pied. Le problème des bouquins comme ça, c'est qu'en une heure et demie, tu l'as lu, quoi. Et donc, du coup, t'es frustré.
Ah bah oui,
voilà.
C'est très court. Oui.
Et le truc, c'est que, par contre, le début, moi, le prologue du livre, m'évoque un film qui n'est pas du tout un Poliziesco. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est un film qui s'appelle Fascination, de Jean Rollin.
Ah non, je ne l'ai pas vu.
Ah ben, il faut que tu le vois, parce que ton prologue, c'est quasiment la même scène que Fascination, de Jean Rollin.
D'accord.
Donc c'est assez drôle, mais cette usine désaffectée, enfin là c'est plutôt un abattoir un peu vieillot, cet échange de sang, ces personnes qui s'échangent du sang, tout ça, enfin bon voilà, ça ressemble beaucoup à ton prologue.
Ah oui, alors moi je pense que c'est alors j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que non, c'est Le Parfum de la Dame en Noir, qui n'a rien à voir avec le roman.
Ah
du
non,
même nom.
Exactement.
Et cette espèce, alors je vais pas spoiler les auditeurs, mais cette espèce de finale qui vient d'on ne sait où, quand on parlait de dinguerie, moi j'étais sur le cul, je disais mais qu'est-ce que je viens de voir, quoi, et ça a transcendé ce film qui était déjà pas mal, hein, du tout, hein. Et je pense que ça m'a marqué, et effectivement je me suis dit je vais commencer par ce genre de scène. Et puis il faut dire qu'aussi, au-delà du film policier à l'italienne, j'ai voulu taper un petit peu dans tous les genres. Alors je me suis pas trop aventuré dans le champ du giallo, parce que c'était déjà le cas Sirène Zéro ça de mon collègue David Didlot. Donc voilà, je voulais pas aller sur ces plates-bandes, mais bon, je me disais il y a quand même moyen de mettre un petit côté un peu raffiné, bizarroïde, bourgeois masqué, etc. Et puis ça t'aura pas échappé, il y a des petits clins d'œil au film de Nonne, hein, la Nonnesploitation aussi italienne. Et puis quand même voilà, un maximum de policiers. Donc je me suis vraiment replongé. Alors c'était un prétexte, hein, mais j'en ai découvert dans ma DVD tech que je n'avais pas vu, qui me restait à voir. Donc c'était le moment. Et puis j'en ai revu, je m'en suis remis plein. Et au bout d'un moment, je finissais par confondre un peu ce que j'avais pu écrire et les passages dont je me souvenais de certains films. Et souvent, pour moi, ça c'est bon signe, quoi. C'est-à-dire que je baigne bien dedans et j'arrive comme ça, j'espère, à rendre un hommage, mais qui soit pas complètement calqué, quoi.
Mais Milano Sanguina, donc Julien, quelle ironie, c'est l'histoire d'un flic taciturne. Il est divorcé, il couche avec une prostituée, il se confronte à une société secrète, il enquête sur du jambon frelaté, il rencontre même des nonnes perverses. Ma question, c'était alors tu as commencé à y répondre, mais peut-être qu'on peut explorer un peu plus encore ta cinéphilie, parce que c'est marrant, t'es un auteur qui nous parle plus de films que de bouquins, en fait, comme inspiration. Mm-hmm. Et c'est un peu un best-of, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, du cinéma bis italien qu'on aime, en fait.
Oui, bah tout à fait. En fait, alors, je voulais qu'il y ait ce corps principal qui soit constitué du polar à l'italienne. Et après, je me suis dit, mais après tout, je peux aussi aller taper un petit peu dans les genres à côté. Je pensais alors à Fulci. Bon, lui, il en met un peu partout, mais Fulci qui gêne pas pour mettre des passages bien gore qui pourraient ressembler à presque des films sur les zombies, même si c'est pas le cas dans ces policiers. Voilà, moi, je me disais le coup des nonnes, il y a quand même moyen. Surtout, j'avais un coffret de non-sploitation que j'ai apprécié. Et effectivement, oui, tu le disais, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que moi, je suis un lecteur, hein, je lis des bouquins quand même, un petit peu, c'est normal, par goût aussi, mais je suis avant tout cinéphile, quoi. Et moi, ma production littéraire, elle me permet surtout de rendre hommage à des genres de films qui me bercent depuis que j'ai 15 ans, quoi. Donc ça fait un moment maintenant. Et j'essaie d'y rendre hommage, quoi, que ce soit le buddy movie dans les années 70 avec Tattoo Blues, avec Garbage Rampage, donc un ouvrage de la collection Trash rendait hommage à l'horreur ou au fantastique new-yorkais à la Chud. Là, c'est le film policier à l'italienne. J'aurai d'autres projets, hein, à chaque fois. Hein, mais ça s'ancre toujours dans un univers marqué. En fait, moi, mes intrigues, je les pense d'abord avec là où ça va se passer et avec qui. Et après, je construis l'intrigue. En fait, je pars pas sur des histoires. Je pars sur des époques, des lieux, des genres, des personnages qui vont avec. Et après, je me dis qu'est-ce qui pourrait arriver. En fait, et je me suis rendu compte, hein, c'est pas du tout une manière que j'ai voulu aborder. C'est ça s'est fait comme ça. Et en fait, ça se fait comme ça sur tous les projets, quoi.
Tu démarres pas l'écriture en ayant déjà l'idée d'un final ou l'idée d'un dialogue ou d'une scène particulière dans le livre. Tu appliques toujours ce même schéma, celui que tu viens de décrire, en fait.
Oui, quasiment. Alors c'est vrai qu'après, au bout d'un moment, il y a des scènes qui viennent, il y a des finales, des idées de finales, il y a des passages, voilà, qui vont se développer. Mais c'est vrai que sinon, moi, ça, c'est toujours un lieu et des personnages. Alors quand je dis un lieu, une époque, hein, on va dire, et puis des personnages, et puis évidemment une sorte de genre, de couleur, hein, de comment le récit va se construire. Et après, l'histoire vient après, en fait. Et moi, je suis assez admiratif quand je discute avec des potes qui écrivent. Ils ont tout de suite des idées en tête de scénarios, d'intrigues, de rebondissements, de retournements de situation. Et puis, alors moi, ça marche pas comme ça, hein. Vraiment, ça vient après, une fois que j'ai posé un univers et un genre, en fait. Je pense que c'est parce que je me nourris peut-être plus effectivement de cinéma que de littérature. Et je pense qu'aussi, c'est que dans le cinéma, finalement, moi, je ne fais pas tant que ça attention à l'intrigue. Alors, évidemment, j'aime bien quand même quand il se passe quelque chose. Mais par exemple, j'adore les gialli et je suis loin de comprendre tout ce qui se passe à l'écran dans certains d'entre eux, quoi. Mais c'est pas trop ce qui compte pour moi au final, quoi.
vous écoutez Julien Caldironi au micro de Culture Prohibée. Milano Sanguina, tu t'es revu des films avant, parce que bon là, le personnage sur la couverture, il a la tête de Fabio Testi, hein, l'illustration de Will Argunas présente Fabio Testi, mais est-ce qu'il est la synthèse de plusieurs personnages de films, est-ce qu'il est, ou alors est-ce qu'il est, bon, pour toi il est original, il correspond pas vraiment à un personnage en particulier, issu d'un Poliziesco?
Alors oui, il est clairement ressemblant à Fabio Testi, je le dis dans le roman, hein, on lui dit souvent qu'il ressemble à Fabio Testi, parce que ça oui. se passe à l'époque où sortent les films et où Fabio Testi est en tête d'affiche. Donc voilà, pour moi c'est une manière très simple et très rapide de le décrire. Après c'est vrai que quand on a causé de la couverture avec l'éditeur, j'ai dit si je peux suggérer un truc, c'est que j'aimerais bien que l'inspecteur, enfin le commissaire ressemble à Fabio Testi, et oui, il a fait un boulot formidable, c'est lui qui a intégré tout le reste, hein, qui a fait à sa sauce. Après, je dirais que c'est une sorte d'archétype, quoi. C'est un archétype que j'ai essayé de développer en restant dans des clichés, mais comment dire, en le rendant quand même un peu humain pour autant. Hein, bon, sa fille, elle est fantomatique, dans le récit, on en parle très peu. Mais voilà, je voulais qu'il ait quand même une vie de famille qui compte quand même vaguement pour lui. Il a une petite perruche, donc il faut qu'il oublie pas de la nourrir quand même de temps en temps. Les relations avec ses collègues, voilà et tout. Mais c'est vrai qu'après, on est dans l'archétype. Alors, je m'inspire évidemment de Fabio Testi dans ses rôles de policier. Hein. Et puis, comment il s'appelle après de
Franco Nero
du personnage Franco Nero, voire même Maurizio Merli, bon je tire dans le tas que Merli peut-être, mais oui, un peu de Franco Nero aussi. Et l'idée pour moi, c'était aussi d'en faire un personnage. Alors comment dire, voilà, je sais qu'on est sur un genre qui est quand même assez connoté réactionnaire, flic qui dit du mal du système parce que on libère tous les petits délinquants qui empoisonnent la vie des gens, qui rackettent les commerçants, etc. Je voulais qu'il soit un peu dans le truc, parce que mon idée, c'était pas de faire une œuvre militante qui va à l'inverse de tout ça, mais je voulais quand même lui apporter un peu de nuance aussi, c'est-à-dire que le gars, il cherche pas à faire justice lui-même, il cherche pas, dans un premier temps, du moins, il se contente de faire son boulot, et c'est quand il se rend compte qu'on lui met des bâtons dans les roues, qu'il va continuer, et petit à petit, il va y avoir un désir de vengeance, etc. Mais on n'est pas sur un flic réac dès le début, qui a envie de dessouder le moindre criminel ou étranger qui passe, quoi.
D'ailleurs, ce personnage, moi je trouve, c'est pour ça que je te posais la question. Alors effectivement, physiquement, c'est Fabio Testi, mais intellectuellement, il me rappelle un peu Harry Callahan aussi, c'est-à-dire que cette sorte d'idéaliste libertarien qu'est Callahan, qu'on a voulu présenter comme un fasciste suite au premier film, et puis arrivé le deuxième film, on s'est aperçu que c'était un peu plus compliqué que ça. Il ressemble un peu à ce personnage-là, c'est-à-dire que si on lui met pas des bâtons dans les roues, il emmerde personne, ce gars-là. C'est juste quand il se retrouve confronté à, comme tu le disais à l'instant, à l'incurie de la bureaucratie, que là, il va un peu, comment dire, passer par des chemins détournés, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. L'idée, c'était un personnage, effectivement, à la manière de Dirty Harry, un peu, pardon, qui fasse pas de cadeaux, en fait, à personne, effectivement, quoi. C'est-à-dire que il va pas avoir particulièrement de pitié pour les criminels, mais il va pas rentrer dans un système non plus qui lui permettrait d'assouvir des pulsions de justicier, de vigilante, en fait, quoi. Hein. Je voulais pas verser là-dedans, parce que d'une part, c'était peut-être un peu facile, et puis voilà, j'avais envie de raconter un peu autre chose, quoi. Même si, bon, effectivement, il se laisse pas faire non plus, quoi.
Alors, pourquoi ? Parce que David Didlot avait fait la même chose dans ses ouvrages, en particulier dans Firenze Rossa, là. Pourquoi le choix de mélanger le français et l'italien avec, par exemple, des termes comme Coglione, Squadra Mobile, qui peut aussi évoquer un film. Mais pourquoi ce choix ?
Ah oui, moi ça, je trouve que ça aide. Alors j'espère que les lecteurs vont un peu dans ce sens-là, parce que c'est vrai que c'est un parti pris. Moi je trouve que ça aide un peu à faire couleur locale, c'est-à-dire que ça aide à mettre dans l'ambiance, parce qu'une langue c'est hyper important. Peut-être que David et moi, David j'en suis persuadé, hein, on regarde les films en VO de toute façon. Et la langue est hyper importante, les insultes sont hyper importantes, et c'est vrai que moi quand je travaille sur des récits qui se passent dans d'autres pays, j'en glisse quand ça se passe aux États-Unis, je glisse des bullshit ou des trucs comme ça. Là récemment j'ai signé une trilogie qui se passait au Mexique, c'est pareil, les Mexicains ils sont pas avares en richesse linguistique lexicale pour les insultes. Je me suis fait plaisir au tel point que dans le premier j'avais demandé à l'éditeur s'il y avait pas moyen de faire un petit lexique à la fin. Je trouve qu'effectivement ça met tout de suite dans le bain. Alors on peut aider en décrivant, hein. On décrit les personnages, on décrit leur environnement, on décrit la vie quotidienne, ce qu'ils peuvent manger, boire, les voitures qu'ils conduisent, tout ça, ça aide. Mais c'est vrai que si y a deux, trois insultes qui fusent, ou une expression, ou basta così, ou voilà, bon, ça nous rappelle quand même qu'on est en Italie, et moi j'aime bien. Alors après, j'espère que voilà, ça ne fait pas sortir les lecteurs du texte, parce que le bouquin n'en est pas truffé non plus. Mais il y en a quand même pas mal. Et j'aime bien travailler sur les insultes, moi, des différentes langues. Je trouve ça assez rigolo.
Non, rassure-toi, ça ne fait pas du tout sortir de l'ouvrage. Au contraire, comme tu dis, ça fait très, très couleur locale. J'ai envie de te demander, on est obligé de se quitter parce qu'on a plein d'autres films à aborder dans l'émission et tout, mais je voulais te demander, est-ce que tu penses faire revenir Morbidelli, quoi ? Est-ce que tu penses qu'on le reverra dans une autre aventure, on va dire, une autre enquête ?
Ah bah, je serais pas contre. Alors après tout ce qui se passe dans le 1, est-ce qu'on le reverrait en policier, en commissaire de police, j'en sais rien. Après il pourrait se passer pas mal de choses avant aussi, ça c'est possible. En fait, si j'envisage de revenir à ce genre de récit, ce serait peut-être plutôt autour d'un petit truc que j'ai glissé sur la fin, quand ça se passe la scène, alors pas complètement finale, mais juste avant, qui se passe dans cette espèce d'hôtel abandonné. J'explique très brièvement pourquoi cet hôtel est abandonné, et en fait, en l'expliquant, je me suis dit « Oh, là, je tiens un petit truc qui me permettrait cette fois-ci d'aller un peu plus du côté du... » Alors, du giallo ou du film, peut-être un chouïa un peu plus fantastique, sans que le fantastique dise clairement son nom. Donc, ce serait peut-être ça plutôt que j'aurais envie d'explorer. Après, c'est vrai qu'effectivement, Morbidelli, moi, c'est un personnage que j'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié le mettre en scène, j'ai bien apprécié lui faire vivre ses aventures, le faire morfler un peu, le pauvre, hein, parce qu'il n'est pas épargné. Pourquoi pas. Alors après, moi, dans ma manière de fonctionner, je me lasse assez vite. Et très vite, je passe à d'autres univers, d'autres personnages, d'autres époques, d'autres genres. J'ai réussi quand même à faire une trilogie donc au Mexicain dont je parlais tout à l'heure. Mais pourquoi pas ? C'est possible. En plus, là, on est sur des romans très courts qui s'écrivent quand même assez vite. Donc, pourquoi pas, effectivement, faire revivre d'autres enquêtes à ce pauvre commissaire.
Ben écoute, comme tu le disais à l'instant, oui, c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, hein, lors d'une question. C'est vrai que tu as un univers très large, une palette très, très importante. Est-ce que tu as d'autres projets, comme on va se quitter là, est-ce que tu as d'autres projets éditoriaux, des choses en cours ou des choses à paraître ou qui viennent de paraître ?
Oui, alors effectivement, alors cette année donc ça a été l'apparition de Milano Sanguina, mais il y a quelques mois auparavant est sorti un espèce de gros pavé pour le coup, hein, qui est à peu près qui fait presque 10 fois Milano Sanguina, qui est Lazare 44, qui se passe dans une sorte d'univers uchronique et space opéra un peu bizarroïde, hein, parce que ça se passe sur le cadavre d'un gigantesque extraterrestre. Et en fait, c'est un univers que j'aime beaucoup et dans lequel j'aimerais bien revenir, et je travaille actuellement, alors non pas sur une suite. Même si ça se passe après, mais c'est dans un autre lieu de ce cosmos un peu bizarroïde. Donc c'est une sorte de fausse suite, à la fois une séquelle et à la fois un truc un peu dérivé. Et là, je suis dessus avec potentiellement une sortie, non pas l'année prochaine, mais l'autre d'après, parce que c'est quand même des gros pavés. Donc c'est mon actu du moment, en fait.
Eh bien écoute, on te remercie beaucoup. On rappelle donc Milano Sanguina, donc signé Julien Caldironi, est disponible dans la collection Carnage chez Zone 52 Éditions. Et je rajoute même qu'il est disponible sur le site des films de la Gorgone qui coproduisent cette émission. Voilà, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Et Julien, nous te remercions beaucoup pour cet entretien. vous écoutez Culture Prohibée, spécial polar. Nous allons rester dans l'univers du Polizziesco avec, dans ce studio, mon commissaire à moi, le commissaire de mai, hein, voilà, avec qui on ne plaisante pas. Et croyez-moi, il est baraqué, hein, donc, et surtout plus jeune, et il court plus vite que nous, donc on n'a aucune chance de lui échapper. Voilà. Et donc, notre ami Damien Demey, qui s'est jeté sur l'édition Blu-ray DVD de nos amis d'Artus Film, de Un citoyen se rebelle, Il cittadino si ribella, qui est un film qui était attendu quand même par tous les cinéphiles amateurs de Polizziesco, parce qu'il était jusqu'ici, il n'avait jamais connu d'édition française. Donc là, c'était un vrai plaisir sur support numérique. Hein. Film d'Enzo G. Castellari, bien sûr, le mythique réalisateur de Keoma. Film avec Franco Nero, le mythique acteur de Keoma aussi d'ailleurs, voilà. Faut croire qu'ils aiment bien travailler ensemble, ces garçons. Et qui raconte l'histoire d'un ingénieur qui se fait passer à tabac par des voyous lorsqu'il tente d'intervenir pendant un braquage. Et voyant que sa plainte a peu de chances d'aboutir, que la justice ne fait rien pour l'aider, il décide de retrouver lui-même ses agresseurs. Il se fait aider par une petite frappe et petit à petit, il va se rapprocher du Graal et peut-être, qui sait, pouvoir se venger. Mon cher Damien, alors déjà, est-ce qu'il arrive à se venger dans ce film qui est tourné en même temps, alors c'est rigolo, qu'Un justicier dans la ville? Donc ce sont deux films qui on ne peut pas dire que pour une fois les Italiens ont copié, puisque l'un et l'autre, les films ont été tournés en parallèle. Est-ce qu'il réussit vraiment à se venger? Est-ce que tout se passe comme prévu? Est-ce qu'on a affaire au film attendu, mon cher Damien? Je te pose toutes ces questions.
Ça prend place durant les années de plomb du coup italienne, donc, qui a touché l'Europe et le monde entier. Donc on retrouve une tension politique extrême qui conduit à une recrudescence de la violence dans les rues. Violence qui est montrée dès le début du film, vu qu'on a un enchaînement de différents plans qui montrent les différentes actions de personnes réalisant des crimes. Et au départ, je pensais que le film allait s'orienter là-dessus, justement sur un groupe de criminels. Mais non, ça met en avant du coup Franck Nero, qui joue le personnage principal et qui porte beaucoup le film avec lui, qui a une tête que j'aime énormément. Peut-être que c'est sa moustache ou c'est juste son visage qui est mémorable, mais il a vraiment une tête reconnaissable, et il va vadrouiller à travers cette ville remplie plus ou moins de criminels, vu qu'il en croise, enfin il commence à les tracer, mais on retrouve des étudiants, on retrouve des personnes dans des hangars à voitures. Tout ça est très sombre, et lui devient détective pour justement réaliser sa vengeance. Et pour moi, c'est une grande découverte au niveau du réalisateur Enzo G. Castellari. J'ai vu qu'il s'était fait connaître pour des western spaghetti, et avec ça, notamment son style, dont l'utilisation de violence et surtout de ralenti, qui, quand ils ont débarqué, m'ont impressionné, parce que durant tout le film, ils sont pas présents, et au bout d'une heure, ils arrivent et ça donne des plans, mais c'est un véritable régal. Il y a une scène de combat dans la boue avec quasiment du rock'n'roll italien que je kiffe. Les mouvements de caméra et le montage sont un délice, notamment avec les assassinats que j'ai cités au début, mais ou encore avec la course de voiture. Et même à la fin, il y a un plan dans un hangar que j'aime beaucoup, où on voit la personne qui court dans un hangar totalement éteint. Et en fait, à chaque fois qu'il fait un pas, la caméra dézoome jusqu'à illuminer la pièce. Ça donne un côté fantastique au film, étrangement, alors que c'est vraiment un film très réaliste. C'est un peu étrange, parce que je me demande si on peut parler de critique policière quand on regarde finalement l'efficacité de la police et comment elle réagit par rapport au film, qui à la fin s'ouvre sur une idée que c'est pas le seul citoyen qui va se rebeller et que ça va créer un plus grand mouvement. Mais c'est un film dont j'attendais pas grand chose au début, mais qui a réussi à me saisir pendant que je le regardais, à m'emmener avec lui jusqu'à la rébellion italienne.
J'aime beaucoup te faire découvrir le cinéma bis italien. Pour en savoir plus sur Enzo Girolami Castellari, je t'invite à lire Inglorious Bastard, qui est l'autobiographie d'Enzo Girolami Castellari, d'Enzo G. Castellari. Girolami, son vrai nom, c'est une famille assez connue dans le milieu du cinéma. Et il est aussi un peu cascadeur. Il apparaît aussi dans ses films d'ailleurs. Hein,
je pense que le fait qu'il soit cascadeur, ça va être, enfin c'est le truc qui, sa façon de tourner, ça m'a vraiment pris dans le film, et notamment à travers les cascades avec la voiture qui sont montrées. Ça se ressent dans sa façon de tourner, c'est un véritable plus.
Alors, après, Castellari, c'est un excellent metteur en scène d'action. Voilà, on en a déjà parlé dans cette émission. Il aime beaucoup Peckinpah, ça se sent dans ce qu'il fait. C'est effectivement le metteur en scène quand même de Inglourious Basterds, la version originale hein, qui a inspiré comment dire à Tarantino son Inglourious Basterds. Voilà, pas un E. C'est aussi Castellari effectivement un compagnon de route de Nero. Nero en parle dans les bonus du Blu-ray DVD parce qu'il y a un long entretien avec Nero qui est très très intéressant et où il dit j'ai entendu parler du justicier dans la ville pendant qu'on tournait le film. Voilà, il prend la défense de son metteur en scène. D'ailleurs, Castellari, bon, j'en ai déjà beaucoup parlé quand on a parlé de Kaumann, donc je ne vais pas refaire sa carrière. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Alors, comme beaucoup de réalisateurs italiens, c'est un grand formaliste de réalisateur de cinéma bis italien qui a eu malheureusement à pâtir à un moment de la baisse des budgets, de producteurs pas toujours extraordinaires. Quand on lit son autobiographie, la mort au large, en fait, c'est quand même plutôt réussi par rapport aux conditions de travail dans lequel il l'a fait. C'est quand même un film assez fun. Enfin, voilà. Avec toujours Nero, mais qui chasse les requins cette fois-ci. Voilà. J'adore Castellari. Voilà, j'adore Castellari. Et je trouve que ces polars sont super intéressants. Pourquoi je dis ça ? Parce que ces polars, il y a quelque chose de très très étrange. Il y a aussi Cobra, il y a d'autres films, hein, mais les deux, la Big Racket dont on parlait avec Julien Caldironi en entretien, et celui-ci, Un citoyen se rebelle, ils sont très intéressants dans le sens où il y a une forme étrange de mélancolie qui se dégage de ces films. Ce personnage de Franco Nero, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est pas du tout le double de Paul Kersey. Et j'aime beaucoup Un justicier dans la ville de Winner. Le premier, je l'aime beaucoup. Mais c'est pas un personnage qui est gangréné par le mal. Enfin, il y a pas qui fait le retour au vigilante classique issu de l'imaginaire de l'Ouest américain tel qu'on peut le voir à travers le personnage de Paul Kersey, y compris dans son travail d'architecte qui va reconstruire à un moment un bâtiment qui peut évoquer justement les racines du vigilantisme. On est dans complètement autre chose, on est dans un film typiquement latin, sans doute c'est pour ça que tu parlais d'une certaine douceur, parce qu'effectivement il y a ce côté latin avec des personnages qui peuvent être très il y a des personnages très durs, hein, les trois voyous là ils sont très durs, mais il y a aussi des personnages qui sont assez commedia dell'arte, comme ça un peu drôle. Ce voyou qui l'aide, c'est un bon gars, c'est un voyou parce que la société a fait de lui un voyou, parce que c'est comme ça, mais c'est pas un sale type. C'est là qu'on voit qu'il y a de la nuance chez Castellari. C'est un cinéaste plus nuancé qu'il n'y paraît. Et puis surtout, cet ingénieur, là, Carlo Antonelli, campé par Franco Nero, c'est pas un type qui devrait. En fait, c'est son orgueil qui est blessé. C'est son orgueil de mal qui est blessé. Et il le vit très mal d'avoir été agressé, parce qu'en fin de compte, une fois l'agression passée, il aurait pu passer à autre chose. C'est un trauma de se faire agresser, évidemment. Mais pourquoi vouloir à tout prix se venger ? Les types ne l'ont pas tué. Les types n'ont pas tué quelqu'un qui lui est proche. D'ailleurs, sa femme, qui est jouée par la belle Barbara Bach, qui est une habituée aussi du cinéma italien de l'époque, du cinéma de genre italien, est très surprise par son changement de comportement, où il peut avoir un comportement, pour le coup, même d'ailleurs, d'un gros macho, très dur, avec sa femme, violent même. Mais en fin de compte, ce héros est un peu un pauvre type. C'est ça qui est assez... Il a des côtés assez minables. Le film présente un anti-héros assez minable. Par instant, le film est assez malaisant, je trouve. C'est un film qui est assez réaliste, en vérité, puisqu'on imagine bien que cet affrontement entre ce type et ses voyous, ce type qui voudrait, quelque part, retourner à l'état sauvage, être capable de se battre, être un gros balèze, pouvoir leur mettre mettre la pâtée, mais il n'en est pas capable, en fait. Il n'est pas un voyou, il n'est pas un dur à cuire. Il est un monsieur tout le monde. Et du coup, ça fait un film très proche de la réalité. Et en fin de compte, c'est un truc qui on pourrait se dire, nous, si notre petit orgueil de mâle était blessé, peut-être qu'on réagirait comme lui, mais on serait quelque part aussi minable que lui, parce qu'il n'est pas Paul Kersey, lui. Il n'a pas cette force de frappe de Paul Kersey.
Il a une progression dans son personnage, parce qu'au départ, vraiment, il veut laisser faire la police, et c'est vraiment par exaspération qu'il agit. Mais il ne se dit pas, je vais remplacer la police. Il se dit, je vais accumuler les preuves, je ne vais pas leur faire face. Et je vais leur tendre un piège et c'est la police qui va agir. Et quand il tente de faire ça et que la police continue à faire rien, il va décider de prendre les choses en main. Déjà parce qu'il va se faire prendre. Ensuite, il va pouvoir se venger une première fois. Il va refuser de les tuer. C'est pas à force des choses que certains événements vont se passer. Mais c'est surtout la façon dont il s'y prend. C'est-à-dire que c'est un scientifique et vraiment tout son cheminement de pensée, c'est vraiment on va pas les affronter physiquement, on va les prendre, on va les piéger, on va les tenir à distance, on va les forcer à se retrouver à un point et on va ensuite forcer la police à agir. C'est une technique vraiment différente, c'est-à-dire qu'on depuis tout à l'heure on dit oui par rapport à un justicier dans la ville, mais c'est juste que on a un sentiment de déjà-vu, mais que les histoires n'ont vraiment rien au commun au final.
Vous écoutez Culture Prohibée. Là, il y a deux films qui sortent chez Artus Film. Alors, on est toujours chez Artus Film, hein, voilà. Et ces deux films, c'est La Possédée du Lac et puis La Mort marche en talons hauts, qui est aussi connu sous le titre Nuit d'amour et d'épouvante. Alors, je vais commencer par La Possédée du Lac, qui est un film de Luigi Bazzoni. Alors, qui est aidé par Franco Rossellini aussi pour faire le film. Mais enfin, le film porte clairement la marque, la patte Luigi Bazzoni, qui est un réalisateur dont on a déjà parlé dans cette émission, qui est un réalisateur très très peu prolifique et très 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 talentueux. Voilà, que je vous invite à redécouvrir de toute urgence. Et Bazzoni, avec la Possédée du Lac, signe un grand film méconnu. C'est un film de 65. C'est un film sur lequel se sont penchées, on va dire, de nombreuses fées. Déjà au scénario, on va retrouver le réalisateur peu prolifique de deux films cultes, Tire encore si tu peux, et le Neo Giallo avant l'heure, La mort a pondu un œuf, c'est le grand Giulio Questi. Et il rédige, là, il adapte en fait un livre éponyme, hein, c'est La Donna del Lago, hein, le titre, donc La femme du lac, le titre italien. Et donc il adapte ce livre de Giovanni Comiso, qui s'est lui-même inspiré d'un sordide fait divers, et il va brasser comme ça plusieurs thématiques liées au genre policier. Il va nous raconter cette histoire d'un écrivain en manque d'inspiration, Bernard, qui va passer un séjour dans un hôtel de montagne du nord de l'Italie. et qui espère y retrouver Tilde, la femme de chambre dont il est tombé amoureux lors d'un précédent séjour. Et une fois sur place, il apprend que celle-ci s'est suicidée et repose dans le cimetière près du lac. Mais il y a beaucoup d'allusions, de bruits qui circulent dans le village, et puis aussi des échanges qu'il va avoir avec un photographe, qui vont le porter à croire qu'elle aurait été assassinée. Et donc le scénario va très bien exploiter, le scénario de Giulio Questi va très bien exploiter cet entre-deux, entre y a-t-il eu crime, n'y a-t-il pas eu crime. Alors il va, le scénario va choisir de trancher quand même, c'est-à-dire qu'au départ on pourrait presque croire que c'est un film d'Antonioni. Et puis d'ailleurs Blow Up, hein, y a des liens avec Blow Up qui sont certains. Bon, là, le film date de 65, donc enfin, en 65-66, on est dans la même période et il y a clairement des liens entre les deux films. Et mais le film choisit de trancher à la fin, ce que ne fait pas Blow Up. Hein, voilà. Et là, le film choisit de trancher, donc à un moment, on quitte la rêverie. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, le film va brasser plusieurs thématiques qui sont liées vraiment au genre policier, hein, en particulier aussi avec l'utilisation d'un noir et blanc assez particulier, très très beau, et qui va donc utiliser beaucoup de ficelles hitchcockiennes, on va dire, pour les mélanger à quelque chose d'antonionien. Et le film va s'articuler comme ça, toutes les thématiques vont s'articuler telle une rêverie. Et en fait, c'est pas étonnant, parce que quand on connaît Giulio Questi, on sait qu'il est spécialiste du poète neurasthénique Dino Campana. C'est un poète qui est né en 1885 et est mort en 1932. Et il a consacré, Questi, son mémoire de fin d'études à son unique ouvrage qui prend place dans l'univers du songe, Canti Orfici, Chant Orphique. C'est un livre de 1914, alors qui est disponible d'ailleurs en édition française. Et donc, la Donna del Lago, c'est pas un giallo, en fait. Même si certains veulent le mettre dedans, c'est pas un giallo, mais c'est la première approche par Giulio Questi du thriller, et c'est la même chose pour Bazzoni. Bazzoni qui va faire Journée noire pour le bélier, qui va faire un film totalement hors norme qui s'appelle Le Hormé, qui a des éléments comme ça d'intrigue, c'est pareil, un peu policière, fantastique. Le film en plus est soutenu par un casting. Alors bon, on va dire que le héros tourmenté, c'est pas le meilleur acteur de la bande, Peter Baldwin, mais il est correct. Mais Salvo Randone en directeur d'hôtel ambigu, comme ça, il est vraiment excellent. Et il y a le très bon Philippe Leroy, hein, que moi j'aime beaucoup, qui est quand même l'acteur révélé par Le Trou de Becker. Hein, voilà. Et puis, comment dire, alors qu'il était acteur amateur d'ailleurs. Hein, voilà. Et puis, il y a Valentina Cortez, et puis il y a Virna Lidzi, voilà, qui est peu présente, parce qu'elle incarne la jeune femme disparue, mais dans des scènes très très marquantes. Donc c'est un... C'est un film au montage heurté, très étrange, avec une bande sonore très 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 saturée par des ambiances particulières, en particulier par un vent qui nous plonge un peu dans une atmosphère presque gothique comme ça, alors qu'on est dans un environnement très touristique. Le rythme est très lent. C'est une sorte de film noir morbide, en fait, quelque part dans une tradition du film noir aussi qui est connue. Je prends Laura, c'est Laura de Preminger. On est clairement dans une histoire assez morbide en vérité, quoi. Voilà, puisque l'enquêteur tombe amoureux d'une morte. Voilà, c'est un grand classique du cinéma nécrophile, on va dire. Voilà. Donc ce film est unique à voir absolument. Et moi, je remercie grandement Artus Film de l'avoir sorti dans cette édition sous le titre La Possédée du Lac. D'ailleurs, à l'image de l'ouvrage de Julien Caldironi, Milano Sanguina, je vous rappelle aussi que tous les films édités par Artus Film sont disponibles sur le site des Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Et on va terminer cette émission avec, là par contre, un pur giallo. La mort marche en talons hauts. C'est un film de Luciano Ercoli. Hein, c'est un film de la grande époque du giallo. Alors, l'histoire est la suivante. On est dans un train, dans un wagon-lit. Il y a un personnage borgne, hein, qui est égorgé par un tueur cagoulé aux yeux bleus. Et pendant ce temps-là, après, on file à Paris. On va retrouver Nicole Rochard, qui est incarnée par la très jolie Suzanne Scott, dont le vrai nom est Nieves Navarro, actrice très, très prisée des amateurs de cinéma bis, et qui a beaucoup fait de giallo, et en particulier donc pour son mari, Luciano Ercoli, là, qui réalise. Et elle est stripteaseuse, mais dans des clubs huppés, hein, comme le Crazy Horse, par exemple. Et son compagnon, Michel Aumont, lui, c'est plutôt une petite frappe qui est portée sur la bouteille. Et puis, on comprend vite qu'il vit à ses crochets. Et elle est convoquée. Alors en plus, elle fait des spectacles, elle fait des, comment dire, des striptease qui ne seraient pas bien vus aujourd'hui, hein, parce qu'elle fait du blackface, et ça, c'est quelque chose qui ne passerait plus du tout aujourd'hui. Et elle est convoquée au commissariat, et elle découvre que la personne qui a été tuée dans le train, égorgée, là, au début, mais en fait, c'est son père, qui était un as de la cambriole, qui était un monte en l'air. Et le tueur, en fait, cherchait des diamants. Et les policiers craignent que la stripteaseuse soit tuée également par ce même tueur, puisqu'il la soupçonne d'avoir ces fameux bijoux. Voilà. Donc, elle dément, mais elle est harcelée par ce tueur aux yeux bleus et à la voix robotisée, parce que c'est un tueur qui a un électro-larynx, là. Donc ça donne une voix un peu particulière. Et bon, elle commence à soupçonner tout le monde, y compris son petit copain, puisqu'elle trouve dans ses affaires des lentilles de couleur azur. Donc elle se dit, c'est peut-être lui, le tueur aux yeux bleus. Donc elle va demander à un de ses admirateurs, le docteur Matthews, un de ses admirateurs fortunés, de l'emmener à Londres et de l'installer. Il va l'installer, lui, dans un charmant cottage en bord de mer. Matthews lui dit même, cet admirateur, qu'il envisage de quitter sa propre femme Vanessa pour épouser donc notre amie stripteaseuse. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir disparition et il y a un duo d'enquêteurs qui va devoir enquêter sur cette disparition et qui va débarquer dans le cottage, un duo de fin limier qui est composé du jeune Bergson et de l'expérimenté Baxter. Alors après photo interdite d'une bourgeoise, Luciano Ercoli revient donc aux affaires avec ce giallo qui fait preuve d'un humour assez prononcé. Hein, en effet, le duo d'inspecteurs composé du chevronné inspecteur Baxter, donc Carlo Gentili, et son assistant le juvénile Bergson, Fabrizio Moresco, multiplient les pitreries au point d'évoquer les Dupont D et Dupont T chers à Hergé. D'ailleurs, c'est certainement pas une coïncidence si le plus sage des deux enquêteurs porte le nom d'un professeur pince sans rire sévissant dans le diptyque Objectif Lune, on a marché sur la Lune. Deux aventures mythiques de Tintin l'intrépide reporter. Et tandis que l'autre enquêteur a comme patronyme quand même Bergson, celui d'un philosophe français, donc Henri Bergson, prix Nobel de littérature en 1927 et qui est passé à la postérité pour entre autres un essai, enfin qui n'en est pas vraiment un puisqu'on regroupe plusieurs textes qu'il a signés, un essai sur la signification du comique intitulé « Rire ». Voilà. Donc c'est l'une des nombreuses références que glisse Ernesto Gastaldi, coutumier du fait, hein, dans tous ses scénarios, il fait ça. Hein. Et là, c'est un scénario qui co-signe avec Manahen Velasco. Il y a aussi une jeune policière qui est affublée du nom évoquant une célèbre marque de bourbon du Kentucky, Penny Packer. Voilà. Alors, j'y vois moi une façon de me moquer de l'attachement quasi maladif des Anglais au scotch. No bourbon, please. C'est fort possible car le scénario multiplie les quiproquos, les retournements de situation. D'ailleurs, un peu trop parce que c'est un film qui du coup est un peu long quand même, il faut bien le dire. Même si le dernier twist est très savoureux pour les amateurs de poissons. Voilà. Nuit d'amour et d'épouvante est donc un excellent divertissement avec un assassin effrayant, avec cette voix étrange. Il y a aussi de nombreuses scènes érotiques. Ercoli adore filmer sa femme toute nue en lingerie fine, donc c'est un show qu'elle nous fait là. Et il y a même une scène très troublante où Nieves Navarro, Suzanne Scott, donc là, celle-là, elle joue sous son pseudo, est agressée par le tueur qui, après lui avoir découpé sa robe, joue avec une lame sur son corps. Et puis, les meurtres sont très graphiques. Et puis, il y en a un qui est vraiment très, très graphique, puisque le tueur taillade sa victime au niveau d'un sein, puis de la gorge et enfin de la bouche. Et là, on ne peut s'empêcher d'un film qui viendra très longtemps après, de penser à un film qui viendra très longtemps après, c'est L'Éventreur de New York, puisque cette scène extrêmement violente, quand même, imprime durablement la rétine du giallophile. Je dirais qu'une fois de plus, dans le giallo, Eros et Thanatos sont de là. Parti, donc casting solide, le petit copain pas très sympa, c'est l'excellent Simon Andreu, et puis surtout, le médecin Robert Matthews, c'est Frank Wolf. Frank Wolf, c'est un super acteur américain qui ne marchait pas du tout aux États-Unis, qui est venu en Italie et qui a fait une grande carrière en Italie, enfin une grande carrière. Il est mort assez jeune, puisqu'à 43 ans, il s'est suicidé, il était dépressif, et c'est bien triste parce que c'est un excellent acteur. Et ceux qui connaissent vraiment cet acteur se rappellent de lui dans le rôle du shérif dans Le Grand Silence. Et il livre dans ce film de Sergio Corbucci une très grande composition. Donc, Nuit d'amour et d'épouvante ou La mort marche en talons hauts, si vous préférez, n'est peut-être pas le thriller terrifiant que laisse supposer son titre. Il est par contre l'un des rares exemples, et je le souligne, de giallo parodique réussi. Donc, nous vous le conseillons vivement. Thank you.
high, but at all I have to run, it's so long. Goodbye, my friend, I'm gonna bring your love with me. I'll wait a split in two, just longing for an end, but the road I have to run is so long. Got no time to hang around now, so
c'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en baladodiffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.